0808.
À Villeneuve-les-Avignon et Caveyrac, de Genolac à Aigues-Mortes, France Bleu Gard-Lozère, écoutez, on est bien ensemble.
Bienvenue dans les experts de France Bleu Gard-Lozère. Ce matin, on parle de l'indemnisation des accidents. Dans quel cas et à partir de quel moment je dois faire appel à la loi? Quel type d'accident est indemnisé? Quelles sont les démarches? Qui indemnise? Auprès de qui je m'adresse? Les réponses à toutes vos questions ce matin au 04 66 21 36 37. Dès maintenant sur France Bleu Gard-Lozère. Maître Stanislas Chamski, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, comment ça marche l'indemnisation des accidents en général?
Alors l'indemnisation des accidents, notamment quand il y a un préjudice corporel, est un mécanisme un peu complexe que les gens ont du mal à cerner. Pourquoi ? Parce que nous avons dans un premier temps une appréciation médico-légale. C'est-à-dire que l'indemnisation des préjudices corporels passe par une mission d'expert, qui est un médecin expert, et qui va donc dans un premier temps déterminer de manière médico-légale quelles sont l'intégralité des préjudices dont souffre la victime.
Donc c'est souvent cas par cas, j'imagine ?
C'est évidemment cas par cas, puisque nous avons un certain nombre de préjudices objectifs, d'autres qui le sont moins, et je pourrai vous expliquer de quelle manière effectivement on peut avoir une indemnisation beaucoup plus importante pour une personne qui présente des préjudices d'agrément, etc., qui sont différents des autres.
Et donc on fait une demande comment ça peut on fait les démarches?
Alors essentiellement, lorsque vous êtes victime d'un accident, vous avez 99 fois sur 100 une compagnie d'assurance qui vient assurer l'auteur de l'accident. Souvent, c'est cette compagnie-là qui désigne un expert, qui vient effectivement, qui vous convoque et qui dresse un portrait de vos préjudices. Je ne peux pas cacher qu'il y a quand même un certain nombre d'interventions à faire à ce moment-là, justement pour que les préjudices soient appréhendés de manière le plus objective possible et au plus près justement des circonstances de la victime.
Il faut d'abord regarder un petit peu l'ambiance avant du problème pour pouvoir déterminer une aide ou non à la personne. Régine nous appelle de Nîmes, elle a une question pour nous. Bonjour Régine.
Bonjour.
Accident de travail pour vous, hein ?
Voilà, un accident de travail. Et j'ai une ou deux questions. La première étant, je suis donc indemnisée actuellement 80% de la Sécu et le reste par la prévoyance de mon employeur qui est une association. Et je suis très étonnée de voir que, contrairement à la Sécu, où la Sécu c'est, on me prélève bien entendu normal la RDS et la CSG, or sur ce qui me reverse mon employeur de la prévoyance, et bien, toutes les charges patronales et salariales sont déduites. Or, du coup, il me reste une misère. J'aurais savoir si toutes ces charges doivent être sont normales.
Alors là, on est dans un cas un peu spécifique, ce qui relève plus du droit du travail que du régime d'indemnisation des préjudices corporels ou même des accidents. Mais effectivement, lorsque vous êtes en accident du travail, théoriquement, vous avez un maintien de salaire. Donc ça veut dire que déjà, le code du travail prévoit dans certaines circonstances un maintien de salaire, je crois, pendant les 60 premiers jours. Voilà, et après, ça va être dégressif. Et après, vous devez avoir soit une convention collective, soit éventuellement une prévoyance qui va prendre en charge le complément. Mais théoriquement, à minima, vous avez les indemnités journalières de la Sécurité sociale à hauteur de 80%, et le complément, effectivement, doit aboutir à un complément de salaire équivalent à votre salaire net.
Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ce qui m'est reversé, donc, par mon employeur de la prévoyance, hein, puisque donc, on est bien d'accord, les 30 premiers jours, c'était 60% de la Sécu, et donc un petit peu plus près de la prévoyance. Mais là, par exemple, ben, si je prends pour pareil, tout premier exemple qui est le plus récent, si je prends du 4 mai au 2 juin, c'est-à-dire pratiquement un mois, j'ai 28,80 € avant qu'on m'enlève les charges. C'est que avant d'enlever les charges dessus, c'était déjà sur, on va prendre sur à peu près 30 jours, ça me fait 90 centimes par jour, quoi.
Oui, là effectivement, avant, je pense qu'il y a un problème à régler. Votre, sans indiscrétion, votre salaire net habituel est de combien ?
En moyenne, puisque donc je suis à domicile, hein, donc on va prendre en moyenne. Je vais dire, je vais être à peu près 1350. Alors je dis bien à peu près. Hein.
D'accord.
Non, c'est ce qui fait que au niveau de la Sécu, donc tout va bien. C'est vraiment au niveau de la prévoyance. Si je prends le tout premier mois où il y a donc plus, parce que la Sécu c'était 60% donc complété par la prévoyance, si je prends le tout premier mois qui est du 4 avril au 3 mai, donc là il y a un mois complet, il y avait 389,79 € où on m'a enlevé toutes les charges et il m'est resté 250 euros.
Alors, est-ce que vous avez un régime de primes ou est-ce que votre salaire dont vous m'annoncez les 1350 euros correspond à un salaire net habituel ou à un salaire augmenté de primes exceptionnelles,
etc. Non, net.
Alors, dans ce cas, je ne peux vous conseiller de vous retourner vers votre employeur, puisque habituellement, ils ont ils font le transfert des sommes qui sont perçues par la complémentaire. Uh-huh. Et éventuellement, avoir un avis sur.
Oui, voilà, je me suis tournée vers eux. Ils me disent non, qu'il y a bien des charges patronales et salariales. Or, moi, je pensais que c'était comme la Sécu, qu'on enlève la CSG et la RDS. Ça, c'est obligatoire. Mais pas toutes les charges, parce qu'à la sortie, il ne reste rien, quoi. Voilà, actuellement, c'est 90 centimes par jour. Avant qu'on enlève les charges, on ne peut rien.
De toute manière, la règle en matière d'accident du travail, c'est que vous ne pouvez pas avoir de préjudice financier en matière d'accident du travail.
Voilà, même au bout des 60 jours.
Dans les limites de disposition du Code du travail, bien sûr.
D'accord. Ben voilà, c'est pour ça que c'est très flou pour moi que je me suis permise de vous appeler.
Ben vous avez bien fait, Régine.
Voilà. Une autre petite question. Est-ce qu'éventuellement, vu le contexte, est-ce qu'il y a, puisqu'on a beaucoup d'assurances tous, même d'ailleurs qui s'entrecroisent, que ce soit les assurances habitation ou autre, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut, et dans ces conditions-là, je dirais dans le temps d'accident de travail, être justement, peut répondre à une aide, à une indemnité, à quelque chose
d'accord,
que
oui, une prise en charge.
Oui, alors, là, la seule chose qu'il faut faire, c'est lire vos contrats d'assurance. Si effectivement vous avez par exemple des prêts, que ce soit des prêts à la consommation ou que ce soit des crédits immobiliers, vous avez systématiquement ou quasi systématiquement une assurance obligatoire qui va vous couvrir en cas d'interruption de travail. Alors malheureusement vous avez souvent un délai de franchise qui est assez long, un délai de carence qui va être entre 30, 60 ou même parfois 90 jours sur les crédits immobiliers les plus lourds. Mais effectivement si vous avez une interruption de travail importante, vous pouvez réclamer la prise en charge de votre crédit par votre assurance.
Donc, il faut se replonger dans les contrats
voilà,
d'assurance.
Il faut lire les petites lignes qu'il y a dans votre contrat d'assurance.
Voilà, Régine, merci pour vos questions.
Merci beaucoup,
et une très belle matinée. Au revoir. Dans un instant, on retrouvera Marie de Tarascon. En attendant, vous restez avec nous, Maître Stanislas Chalamski, et vous répondez à toutes nos questions ce matin dans Les Experts au 04 66 21 36 37. Un autre monde, téléphone sur France Bleu Gard-Lozère. On fait la route ensemble sur France Bleu Gard-Lozère. La circulation est fluide sur l'ensemble du réseau autoroutier de la région. La 7, la 9, la 54 et la 75, tout roule ce matin. Vous êtes tranquille, pareil aux alentours de Nîmes. Là aussi, la circulation est fluide. Et évidemment, si vous êtes déjà sur les routes et que vous êtes témoin d'un accident ou d'une déviation, vous n'hésitez pas à nous partager l'info en nous appelant 04 66 21 36 37. Et bien sûr, avant de partir de la maison, un petit coup d'œil sur internet sur francebleu.fr pour consulter l'état du trafic dans la région. Retour dans les experts de France Bleu Gard-Lozère avec ce matin notre invité, Maître Stanislas Chamski. Il répond à toutes vos questions en ce qui concerne l'indemnisation des accidents. Dans quel cas et à partir de quel moment vous pouvez faire appel à la loi? Vos questions ce matin dans les experts au 04 66 21 36 37. Marie, vous nous appelez de Tarascon. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, Maître.
Alors, quelle est votre question?
Alors voilà, mon compagnon a pris des leçons d'équitation et à la première leçon, le cheval l'a envoyé valtinguer et il a eu une chute assez grave puisqu'il a tous les tendons arrachés de l'épaule. Ça veut dire qu'il ne peut plus travailler, qu'il est immobilisé et on attend un scanner pour savoir si il va falloir opérer. Il se trouve qu'il est en profession libérale et qu'il n'a pas d'assurance. Est-ce qu'il y a une solution?
Alors, la problématique que vous avez dans ce type d'activité, c'est que vous avez une activité qui est à risque. Et que, oui. En matière d'accident, on peut analyser sous deux angles. Premièrement, voir si votre compagnon a une assurance qui le couvrirait en cas d'accident tel que celui qu'il a subi. Donc ça, évidemment, il faut dans un premier temps vérifier vos contrats, mais a priori, c'est pas le cas. Et oui. La deuxième optique, c'est de vérifier si il y a eu un manquement de la part du professeur d'équitation ou qu'il y a eu un comportement anormal du cheval qui a provoqué la chute de votre compagnon. Alors, malheureusement, je tiens à vous dire que dans ce type d'activité, on a une théorie qui est une théorie jurisprudentielle, qui est la théorie de l'acceptation des risques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez accepter de faire une activité qui comporte un risque, vous pouvez en accepter les conséquences. Donc là, on va réellement être dans une vision au cas par cas de l'accident pour vérifier si effectivement il y a eu un manquement professionnel de la part de l'équipe professionnelle qui a accueilli votre compagnon ou du cheval qui éventuellement aurait eu un comportement déviant. Il est clair que dans ce type d'activité, on doit, si jamais votre compagnon était un peu néophyte en matière d'équitation, lui donner un cheval calme, etc. Si ça n'a pas été le cas, il peut y avoir une faute qui peut engager la responsabilité du centre équestre.
Et comment on le prouve ça, par exemple?
Attestation. En droit français, la preuve est essentiellement écrite, hein, même exclusivement écrite. Donc on peut tout à fait établir cela par voie d'attestation. C'est-à-dire des témoins qui étaient sur place et qui peuvent dire de quelle manière le cheval s'est comporté, s'il y avait une surveillance suffisante de la part du centre équestre, si l'éducateur équestre était là de manière permanente ou si au contraire il est un peu laissé seul. Enfin voilà, il y a quand même un certain nombre de choses à faire. Et à tout le moins, de toute manière, mon conseil dans un premier temps, c'est déjà de faire un courrier recommandé au centre équestre, lui demandant de faire une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance.
D'accord, parce que dans ce cas-là, il faut rentrer dans une procédure, il ne fait pas automatiquement marcher son assurance pour une indemnisation.
Mais le problème, madame, c'est qu'il n'a pas nécessairement d'assurance. Enfin, je ne sais pas si votre compagnon a une assurance pour entrer en voie d'indemnisation.
Mais le centre équestre, non?
Alors le centre équestre a peut-être une assurance, mais je pense qu'habituellement sur ce type de pratique, on doit faire signer à votre conjoint une décharge par rapport au risque que peut présenter ce type d'activité. Donc avant même de commencer,
rien signé du tout, non.
Alors oui, non.
Voilà. Donc moi, je ferai un courrier recommandé au centre équestre en adressant la copie du certificat médical initial de constatation des lésions, qui doit être le premier certificat qui a été dressé lorsque votre compagnon a été admis aux urgences, en indiquant les circonstances exactes de l'accident, à quel moment, quelle date, quelle heure, quelles circonstances, quelles sont les premières conséquences médicales, et en demandant effectivement de faire une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance du centre équestre.
Voilà, Marie.
Ben, merci beaucoup.
Bonne journée à vous, au revoir et bon courage. Les experts, ça continue ce matin sur France Bleu Gard-Lozère. Et dans un instant, vous pourrez poser vos questions au 04 66 21 36 37. On trouvera Patricia tout à l'heure qui nous appelle d'Alès.
C'est nouveau.
Chimène Badi, elle vit.
Et c'est à découvrir sur France Bleu Gard-Lozère. France Bleu Gard-Lozère, France Bleu Gard-Lozère,
France Bleu Gard-Lozère. Là comme si le monde n'avait pas envie de voir. Son... sous sa peur. Là comme si le monde n'avait pas envie de croire dans son cœur. Là comme si jalouse de leur self-control, on oubliait certaines personnes. Petite, elle rêvait de soupirs, de jolies vagues, de chaleur. Petite, elle caressait le sable, certaines dans ciel. Projecteur, maladresse de la vie, son adresse ressemble trop à l'oubli. Elle vit douleur et on change de fil. Elle vit, ça change comme on change de fil. Être sale sans un nom. Elle nous dit son mal se dessine sans encre, sans mélodie. Bonheur si les heures passent avant l'ennui. Comme une ombre qui fait face sans voir le jour. À quel mauvais tour. Oh yeah. Elle vit douleur et mon change de fil. Elle vit, ça change comme on change.
Chimène Badi, elle vit sur France Bleu Gard-Lozère. Retour dans les experts de France Bleu Gard-Lozère avec notre invité expert, Maître Stanislas Chamski, ce matin. Il répond à toutes vos questions en ce qui concerne l'indemnisation des accidents. Les accidents de travail, comment ça marche, comment, qui indemnise et vers qui s'adresser quand on a un problème. Vos questions ce matin au 04 66 21 36 37. Patricia, bonjour, vous nous appelez d'Alès.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est votre situation ?
La situation, j'ai été contaminée à la suite. J'ai été contaminée par un streptococcus mutant, c'est-à-dire une maladie nosocomiale, suite à. On m'a enlevé une plaque ostéosynthèse. Et là, j'ai essayé de me battre pour obtenir quand même une indemnisation, parce qu'il a fallu subir une grave opération. Et là, je suis passée au tribunal en 2012. On m'a attribué un expert en orthopédie, au lieu de m'attribuer un expert en hématologie.
Oui.
Alors là, je ne sais plus quoi faire.
Madame, vous êtes passée au tribunal déjà ?
Je suis passée au tribunal en mai 2012.
D'accord. C'était le tribunal des juridictions civiles ou administratives ? Vous êtes fait opérer à l'hôpital ou en clinique ?
En clinique.
En clinique. Donc vous étiez sur les juridictions civiles. Donc théoriquement, alors le principe d'une infection, d'une maladie nosocomiale, dans un premier temps effectivement, c'est avant toute chose de déterminer si vous êtes réellement dans le cadre d'une infection nosocomiale, puisque le régime d'indemnisation est totalement différent. À partir du moment où vous avez donc une infection nosocomiale, c'est-à-dire une infection d'origine hospitalière, c'est-à-dire que vous êtes atteint par un germe d'origine hospitalière, ce qui n'est pas un régime de responsabilité pour faute, puisque on a souvent tendance à croire que qui dit infection nosocomiale dit manquement à des règles d'hygiène, etc. Non,
pas forcément.
Vous êtes en milieu hospitalier, vous êtes en milieu médical. Effectivement, il peut y avoir des germes qui traînent malheureusement. Et ce n'est pas forcément des manquements aux règles d'asepsie qui entraînent des maladies nosocomiales. Mais à partir du moment où il est déterminé que le germe dont vous êtes atteinte est un germe d'origine hospitalière, la loi du 4 mars 2002 vient dire que vous êtes dans le cadre d'un régime d'indemnisation de plein droit. C'est-à-dire que vous n'avez pas à démontrer une quelconque faute de la part de la clinique ou du médecin ou de l'hôpital, mais vous avez simplement à déterminer que c'est un germe d'origine hospitalière et que donc il y a une indemnisation qui est de plein droit. Alors la difficulté, effectivement, une fois que cette première étape est franchie, c'est de déterminer quelles sont les conséquences de cette infection. Puisque vous êtes rentré en clinique déjà pour une atteinte médicale grave, puisque si vous avez eu un traitement par ostéosynthèse et que vous deviez avoir une fracture un peu importante, et par voie de conséquence, les conséquences indemnisables de l'infection nosocomiale sont les conséquences supplémentaires en termes de traitement médical que ça a généré. C'est-à-dire que vous êtes opéré une première fois, vous avez un traitement par ostéosynthèse, on découvre qu'il y a une infection, donc un germe qui vient se placer sur cette plaque d'ostéosynthèse, on la remplace, vous subissez donc une deuxième intervention chirurgicale qui est due à l'infection nosocomiale. Mais la première intervention chirurgicale n'est pas due à l'infection nosocomiale. Voilà, donc il y a tout des démarches médicales à faire et de prise en compte, mais habituellement, lorsque l'expert est désigné et il a déjà rendu son rapport.
Oui, je vais vous dire, j'avais une rhinite, c'est à cause d'une rhinite que j'ai eu ça.
D'accord, mais les conclusions de l'expert concluent à une infection nosocomiale ou pas ?
Non, il n'accepte pas.
Ah, donc là, ça va être compliqué.
C'est toute la difficulté, parce que lorsque vous avez une infection qui est contractée dans un établissement hospitalier ou dans un établissement de santé, ce n'est pas nécessairement une infection nosocomiale. Vous avez souvent ce qu'on appelle des infections du dehors ou dedans, c'est-à-dire que c'est votre propre corps qui développe une infection et qui ensuite vient migrer sur par exemple des matériels d'ostéosynthèse. Donc après, il n'y a que par voie d'expertise médicale. Alors ce qui est vrai, c'est qu'habituellement c'est pas un orthopédiste qu'on désigne dans ces cas-là, c'est plutôt un expert infectiologue. Voilà, voilà, absolument. Donc parce que c'est vraiment adapter le type de germe, vérifier la qualification, le
donc
le
dans type. Le cas de Patricia, il faut refaire une demande avec un expert qui correspond au problème, là on est bien d'accord.
Après, j'imagine que si vous êtes passé devant le tribunal, c'est que vous avez un avocat, et cet avocat saura vous conseiller effectivement de contester l'expertise médicale qui a été rendue, peut-être en dénonçant la qualité essentielle de l'expert qui n'était pas forcément adapté, et en demandant la désignation d'un expert qui est peut-être un peu plus calé en matière d'infection.
Tout simplement. Voilà pour vous, Patricia. On vous souhaite bon courage, bonne chance. Vous restez avec nous, évidemment, Samy Lachamski. On continue avec les questions, notamment Leïla qui nous rejoindra tout à l'heure, et puis Bernard. Et en attendant, on fait un petit point sur la route. Il est 9h30.
Jeannelle Bernard sur France Bleu Gard-Lozère.
Le matin, on décrypte l'info ensemble. Les politiques, les acteurs de la vie locale répondent aux journalistes de France Bleu Gard-Lozère. L'invité de l'actu, du lundi au vendredi, 7h50, sur France Bleu Gard-Lozère.
À Poker, venez découvrir les Pokés les vendredis soirs de l'été. Dès 19h, marché artisanal sur les quais et animation enfants. Sur la place Clémenceau, un grand spectacle gratuit à 21h30. Avec le vendredi 31 juillet, une soirée spéciale Michael Jackson. Et en août, une soirée samba salsa, soirée rock'n'roll, concert de Sébastien Lorca et Olympe de The Voice. Les Pokés, tous les vendredis de l'été à Poker.
France Bleu retourne en cuisine avec la saison 5 de Masterchef.
Troisième semaine d'épreuves pour les 10 cuisiniers amateurs encore en lice. Au programme, un premier défi en duo et des plats incontournables de la gastronomie française revisitée. Mais aussi une escapade au cœur de la région lyonnaise.
France Bleu vous donne rendez-vous jeudi sur NT1 à 20h50 pour une troisième émission riche en émotions.
Masterchef, ce jeudi à 20h50 sur NT1 et sur francebleu.fr.
Dans l'agglo de Nîmes et sur l'A75, au cœur du Gard rhodanien, France Bleu Gard-Lozère, on est bien ensemble.
On fait la route ensemble sur France Bleu Gard-Lozère. La circulation est fluide ce matin. L'autoroute A7, A9, A54 et A75. Tout roule, vous êtes tranquille sur les autoroutes de la région. Pareil aux alentours de Nîmes. Si jamais vous êtes témoin d'un accident ou d'une déviation, vous n'hésitez pas à nous appeler au 04 66 21 36 37. Et bien sûr, avant de partir de la maison, rendez-vous sur francebleu.fr pour consulter l'état du trafic dans la région.
On fait la route ensemble avec Murprotec Languedoc-Roussillon. Solution définitive contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur www.murprotec.fr.
Retour dans les experts de France Bleu Garloser avec notre expert ce matin, Maître Stanislas Chamski. Il répond à vos questions, ce qui concerne par exemple l'indemnisation des accidents du travail. Leïla est avec nous et on va répondre à sa question tout de suite sur France Bleu Garloser. Leïla, bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez de Saint-Gilles.
Voilà, c'est ça, de Kistars, alors c'est à côté de Saint-Gilles.
D'accord. Voilà. Expliquez-nous ce qui vous arrive, Leïla.
Alors, j'ai fait un accident de travail, j'ai tombé au travail, j'ai fait une fissure au genou. Je ne sais pas comment, parce que je connais pas vraiment les droits. J'ai entendu ce matin qu'il y a vraiment, j'ai deux crédits de consommation. Et l'expert, il a dit vraiment l'assurance, et il peut indemniser vraiment au cas où vraiment on a des crédits. Et je ne sais pas vers où, vraiment, comment les démarches que je peux faire.
Tourner,
et,
oui.
Voilà.
Alors, bonjour Leïla. Donc, la première chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans ce type de circonstances, la première des choses à faire, c'est de reprendre vos contrats d'assurance, notamment les contrats d'assurance groupe qui sont annexés à vos contrats de crédit, les lire et voir quels sont les délais de carence. À partir de ce moment-là, la première des choses à faire, c'est de faire un courrier recommandé à votre compagnie d'assurance en adressant le certificat médical initial et les avis de prolongation. Et systématiquement, de toute manière, les contrats d'assurance prennent en charge tout ce qui est interruption du contrat de travail, notamment lorsque c'est d'origine accidentelle, à partir du moment où le délai de carence est respecté.
Donc là, c'est comme tout à l'heure, il faut revoir les contrats d'assurance. On
absolument.
Est bien d'accord, Leïla.
Et qu'on soit en accident du travail ou qu'on soit en arrêt maladie, ça change strictement rien. C'est l'interruption du travail qui ouvre droit justement à la prise en charge par la compagnie d'assurance.
Voilà pour vous, Leïla.
Oui, j'ai entendu vraiment, c'est 90 jours, c'est ça. Moi, ça fait 3 mois, vraiment une semaine, vraiment, quand j'ai fait l'accident de travail.
Alors, ça dépend. Les contrats, c'est au cas par cas. Vous savez, vous avez des contrats où le délai de carence, c'est de 30 jours, d'autres où c'est de 60, et certains, effectivement, qui sont moins bien couverts par leur compagnie d'assurance, où c'est 90 jours. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de généralité. C'est contractuel.
D'accord.
Voilà, Leïla. J'espère que c'est plus clair pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.
Au revoir.
Bernard, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est votre situation à vous, Bernard ?
Ma situation était la suivante. Je roulais avec un scooter sur la route. Il y a une personne qui gardait des chèvres et qui avait deux chiens. Et il y en a un qui m'a attaqué, qui m'a mordu.
Ah.
Donc, je suis allé me faire soigner. Et je suis allé déposer plainte auprès de la gendarmerie et on m'a indiqué que ça servait à rien quasiment de déposer plainte parce que ma plainte...
Voilà, on n'a pas la suite de l'histoire de Bernard. Bon, comment ça se passe quand par exemple on se fait attaquer par un chien? On marche dans la rue, on est sur la route comme Bernard, et comment on peut s'en sortir?
Eh bien théoriquement, effectivement, c'est le propriétaire du chien, en tout cas celui qui en a la garde, puisqu'il y a cette distinction à faire, qui est responsable du chien. Distinction à faire effectivement, puisque vous pouvez avoir de temps en temps le propriétaire du chien qui a confié le chien à son voisin ou à quelqu'un pour le garder, et c'est donc cette personne-là qui est à la garde du chien et qui est donc responsable éventuellement des divagations ou des morsures que ce chien pourrait occasionner. Là, en ce qui concerne Bernard, effectivement, s'il est simplement sur la route en train de circuler et qu'il se fait mordre par un chien, la première chose à faire, c'est d'identifier le propriétaire du chien ou celui qui en avait la garde à ce moment-là. Mais il est vrai, comme dit la gendarmerie, que le dépôt de plainte n'est pas forcément adapté à ce genre de circonstances. Les gendarmes ou les services de police ont parfois autre chose à faire quand même que d'aller prendre des plaintes pour des morsures de chien. Par contre, ça n'empêche pas que sur le terrain civil, effectivement, il y a un régime d'indemnisation et un régime de responsabilité que Bernard pourrait engager à l'égard du propriétaire du chien.
Et en fonction de la race du chien, j'imagine qu'il y a des risques avec certaines races. Et du coup, là, peut-être l'indemnisation peut jouer.
Alors, c'est pas une question de risque, puisque vous pouvez être mordu par un petit chien, avoir des conséquences très graves, et l'inverse est...
Oui,
également vrai, mais par contre, il y a un régime de responsabilité qui est différent, pas de responsabilité, mais en tout cas en fonction des catégories de chiens, vous avez l'obligation de les museler, de les tenir
exactement.
En laisse, etc. Mais effectivement, c'est pas la même chose pour toutes les catégories de chiens. Voilà, là, si c'est un chien de berger, effectivement, c'est pas forcément ceux qui sont habituellement les plus dangereux, mais manifestement, Bernard a été mordu.
Voilà. Bon, bah Bernard, si vous nous avez entendu, j'espère que vous avez écouté les conseils. Merci à vous d'avoir été avec nous, Maître
Chemski.
On vous souhaite un bel été.
Vous aussi.
Et à bientôt sur France Bleu Gard-Lozère. Demain, notre expert, c'est Claude Gilbert Claude, président de l'UFC Que Choisir Nîmes. Et il nous dit tout sur la location meublée touristique dès 9h demain. En attendant, si vous avez des meubles et objets à vendre, ce qui suit devra vous intéresser.
Jeannelle Bernard sur France Bleu Gard-Lozère.
France Bleu.